On va commencer une nouvelle étude aujourd'hui. On aime bien alterner entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc là, on va faire dans le Nouveau Testament l'étude de la lettre de Paul à Timothée, la première lettre de Paul à Timothée. On verra que dans cette lettre que nous entamons, Paul va se vanter d'être le champion des points noirs, le plus grand des pécheurs. Et donc, cette épître, alors ça c'est le mot gothique, c'est le mot savant pour dire la lettre de Paul à Timothée. Timothée, c'est un personnage dont on entend parler dans le livre des Actes. Cette première lettre, avec la deuxième lettre de Paul à Timothée, il en enverra une autre, et puis la lettre de Paul à Tite constitue ce qu'on appelle les épîtres pastorales, c'est-à-dire les lettres qui sont écrites à de jeunes pasteurs. Et quand je vous dis cela, il y en a peut-être qui se disent « Bon, ben ça, c'est pas pour moi, je suis pas pasteur, je veux pas devenir, surtout pas devenir pasteur. » Mais on sait qu'en fait, cette lettre, elle est écrite à l'Église, à Paul, mais aussi à l'Église, et elle indique comment l'Église doit fonctionner. C'est intéressant parce que la tendance, souvent, c'est de considérer l'Église comme une entreprise humaine. On sait que c'est spirituel, mais des fois, on veut avoir recours à des méthodes humaines pour la faire grandir. On se dit que si on fait davantage de publicité, si on a un beau parking, si les fauteuils sont confortables, on va avoir plus de monde. Mais là, nous allons avoir des conseils sur comment doit grandir l'Église, comment elle doit fonctionner. Et il est très important que nous le comprenions bien. Parce que notre tendance, ça va être de revenir à des méthodes humaines. Quand on a des difficultés, lorsque on a l'impression que l'Église ne grandit pas. Mais là, je vous mets vraiment en garde. Ne cherchons pas à faire le travail spirituel avec des moyens charnels. Et ça, c'est ce qu'on voit dans l'Église en grand. Dans le monde entier, il y a des méthodes pour faire grandir l'Église. Tonio était tout petit quand il est né. Il a grandi. Sébastien était encore plus petit, il est encore plus grand. Mais je peux vous garantir qu'on n'a jamais attaché des poids aux pieds de Tonio ou Sébastien pour les faire grandir. Quel est le secret de la croissance? C'est l'alimentation, c'est l'environnement, c'est l'amour. Et il est très important de venir à la parole pour savoir comment les choses doivent se passer. Souvent on lit et puis on oublie. Et puis on fait nos propres recettes et on est un mauvais témoignage pour le monde. Et ce faisant, c'est le monde qui influence l'Église au lieu que ce soit l'inverse. L'Église adopte les méthodes du monde. On va parler donc de ce jeune Timothée. Si vous avez une carte à l'arrière de votre Bible, souvent il y a une carte des voyages missionnaires de l'apôtre Paul. Il y a le premier voyage, le deuxième, le troisième et le voyage à Rome. Le premier voyage, ça c'est décrit dans les Actes, vers chapitre 13 et 14. Paul, c'était l'homme des cités, des grandes cités. Quand on pense à lui, on pense à Corinthe, on pense à Athènes, on pense à Thessalonique, on pense à Rome. Et puis là, on voit que lors de son premier voyage, il part de Antioche, en Syrie, et il va arriver à la côte sud de l'Asie mineure, à Attalie, puis il va aller à Perge, à Antioche de Pisidie, à Iconium, à Lystre, à Derbe, et il va refaire le voyage de retour. Il est dans la région qu'on appelle la Galatie, de l'Asie mineure, de la Turquie actuelle. Mais à l'époque et aujourd'hui encore, aller à Iconium ou Lystre, c'est aller comme si ici on allait au col de Vence, à Courme, un bled perdu. Et on a le sentiment que même Paul ne savait pas pourquoi le Seigneur le guidait vers cet endroit. Il se déplaçait à pied, généralement, et c'est là on pense qu'une fois qu'il est arrivé, il a parcouru près de 200 km à pied. La semaine dernière, on a fait une randonnée au-dessus de Courme, on a peut-être fait 4 km, 6 km. Là, il fait tous ces kilomètres et il se retrouve dans la ville de Lystre. On peut regarder, si vous le voulez, maintenant dans les livres des Actes, au chapitre 14. Ils viennent de passer, donc, d'arriver sur la côte, ils sont remontés à Iconium. Ils partent dans la synagogue des Juifs, d'une manière si convaincante que des Juifs et des Grecs, donc des païens et des Juifs qui croyaient en Dieu, se mettent à croire à Jésus. Mais il y en a toujours qui s'opposent à ce travail, et il y a la foule qui veut lapider, c'est-à-dire tuer à coups de pierre les apôtres, Paul et Barnabas. Et donc, ils continuent un peu plus loin, et ils vont en Lycaonie, ils vont à Lystre et à Derbe. Et verset 8, il est dit, à Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, infirme de naissance, qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, qui fixa les regards sur lui, qui voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, dit d'une voix forte, lève-toi, droit sur tes pieds. Il se leva d'un bond et se mit à marcher. Un miracle. À la vue de ce que Paul avait fait, les foules élevèrent la voix et dirent en langue lycaonienne, les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Zeus et Paul Hermès, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre du Zeus qui est devant la ville amena des taureaux et des guirlandes vers les portes et voulait de même que les foules offrirent un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul la prirent, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en criant aux hommes, « Pourquoi faites-vous cela? Nous sommes nous aussi des hommes de même nature que vous et nous vous annonçons comme une bonne nouvelle qu'il vous faut vous détourner de ces vanités et vous convertir au Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est par ses bienfaits, en vous donnant du ciel, les pluies et les saisons fertiles, en vous comblant de nourriture et de bonheur dans le cœur. À peine purent-ils par ses paroles empêcher les foules de leur offrir un sacrifice, et puis arrivent des Juifs d'Antioche, d'Iconium, qui gagnèrent les foules, lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais, verset 20, les disciples entourèrent, il se leva et il rentra dans la ville. Incroyable, cette histoire. Paul, par la puissance du Saint-Esprit, fait des miracles. Et il est dit que la foule pense que c'est leur dieu, les dieux du panthéon grec qui sont descendus jusque chez eux. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, Il y a une histoire dans la mythologie grecque qui disait justement que Zeus et Hermès, le dieu créateur et le dieu de la guerre, étaient descendus, déguisés dans cette région de Lyconie, pour tester l'hospitalité des gens qui l'habitaient. Et en fait, de partout, ils sont expulsés. On leur dit, on veut pas de vous. À part un couple, Philémon et Baucis. Peut-être que pour certains, ça rappelle quelque chose. Philémon et Baucis, c'est le nom de ces personnages mythiques pour lesquels il y a eu de la musique créée sur ce nom, sur cette histoire. Et eux les reçoivent du mieux qu'ils peuvent, sans savoir que c'est Zeus et Hermès, parce qu'ils se sont, les dieux se sont déguisés. Et ils leur disent qu'ils vont détruire toute la région qui a été si inhospitalière avec eux, mais qu'eux vont être bénis et avoir une vie très longue. Donc ça, c'était l'arrière-plan qui explique pourquoi, lorsque les gens voient ce miracle, ils disent « Ah, cette fois-ci, on ne nous y prendra pas, c'est Zeus et Hermès déguisés ». Ça explique pourquoi Paul et Barnabas ont toutes les peines du monde à les convaincre. Non, 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 on n'est pas les dieux qui sont venus cacher et qui ont laissé la vie sauve à Philémon et Baucis. Nous sommes juste des apôtres du Dieu vivant, du vrai Dieu. Il est dit dans la légende qu'en fait, ils se sont transformés, ils ont vécu vieux, ils se sont transformés l'un en tilleul et l'autre en chêne. Philémon et Baucis. Ça, c'est l'arrière-plan. Et comme toujours, il leur annonce l'évangile. Verset 15, nous annonçons une bonne nouvelle. Il faut vous détourner des vaines choses. Les vanités de la religion, de l'orgueil humain, toutes ces choses. Il faut vous convertir. Il faut venir au Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il y a un seul Dieu créateur. Et puis il explique qu'il a laissé les nations, les païens, suivre leur propre voie, verset 16, tout en les bénissant. Souvent c'est un argument pour l'incrédulité. Vous êtes chrétien, très bien, vous croyez en Jésus, moi je crois en Bouddha, je crois en Mohamed, je crois en rien du tout. Et le soleil qui brille aujourd'hui sur la promenade, il brille pour moi, nananana. Pourquoi s'incliner devant un Dieu qui... Il est expliqué. Il ne cesse de rendre témoignage, verset 17, par ses bienfaits. Il donne la pluie, il donne les saisons fertiles, il vous donne de la nourriture, il vous donne même du bonheur dans le cœur. Et là, ça provoque la colère des juifs, plutôt que des païens, qui arrivent et qui mettent Paul, il le lapide. Et en général, quand on lapide, il y avait des règles très précises. On mettait la personne au bord d'une falaise. Et chaque personne qui était présente lançait une pierre sur la personne. Il y en avait qui étaient maladroits. Ceux qui ne jouent pas très bien à la pétanque, ils passaient à côté. Mais s'il y avait une foule de 10 personnes, vous aviez la chance de recevoir 10 pierres. S'il y en avait 1000, c'était 1000 pierres. 10 000, c'était... Donc, en général, on n'en ressortait pas vivant. Et pour être sûr que vous mouriez, si vous étiez enseveli sous les pierres, on vous ressortait de là et on vous poussait dans la falaise, dans le vide. Paul est lapidé. On pense qu'il est mort. On ne sait pas s'il était seulement bien sonné ou si c'est un miracle, il est revenu à la vie. Vu sa réaction, il est comme le petit lapin des piles électriques qui n'arrête jamais. Duracell, merci. Quelqu'un qui connaît sa Bible. Il se relève et il repart dans la ville. increvable gars. Pourquoi on raconte cette histoire ? Parce que sans doute dans la foule, il y a un jeune gars, un jeune homme, un enfant encore, qui s'appelle Timothée. Timothée qui voit cela. Timothée, de par la lettre, on sait que c'était un, il avait un nom grec qui veut dire Théos, Dieu, Timos, c'est la valeur, qui est né pour accorder de la valeur à Dieu, ça c'est le nom que ses parents lui ont donné, mais ses parents, c'est un couple mixte, c'est un couple juif, païen, pagano-juif, judéo-pagain, païen, comme vous voulez. Le papa est grec, la maman est juive. On sait même son nom. Elle s'appelle Eunice. Et la grand-mère, c'était aussi une femme très pieuse, s'appelle Loïs. Et lorsque l'on lit ces histoires, si on ne prend pas le temps de rechercher un peu les choses, on dit, bon, ben, très bien, ici, il y a plein de couples mixtes, de nationalités différentes. En fait, il faut réaliser que du fait que son père n'était pas juif, Timothée n'a pas été circoncis. Dans une culture juive, il n'était pas circoncis, il n'était pas comme les autres. Il n'a pas suivi les études en vue de la bar mitzvah. C'était un exclu. C'était quelqu'un qui souffrait de rejet. Peut-être parmi vous, parmi nous, il y en a qui ont cette habitude d'avoir été rejetés par les autres dans leur environnement, par leurs proches, par leurs copains d'école, au travail, les voisins. L'homme est dur pour l'homme. On a tendance à rejeter plus qu'à embrasser, qu'à accepter. Et ce jeune homme qui avait été élevé dans les voies du Seigneur par sa maman, surtout, qui lui avait donné la connaissance des Écritures. Vous qui êtes maman, qui allez le devenir dans le futur, vous les papas aussi, enseignez vos enfants dans les voies du Seigneur. Parlez-leur de la Bible. Racontez-leur des histoires de la Bible. Les récits de la Bible, pas des histoires. Les récits historiques de la Bible. Parlez à vos enfants de Dieu. On est prêt à les équiper pour qu'ils soient des champions de foot. On va aller conduire aux entraînements, on va leur acheter le meilleur équipement possible. On va leur donner à manger, on va leur donner des vacances, la chose la plus importante que vous puissiez faire pour eux, c'est de leur apprendre les Écritures. Même si votre enfant n'est pas né, vous pouvez lire la parole à voix haute. N'est-ce pas, Linda ? Il dira, mais je connais ce verset. D'où je connais ce verset ? On ne sait pas. Ce jeune homme qui avait le désir, qui avait un amour pour Dieu, mais qui ne pouvait pas participer avec ses amis à la vie spirituelle de son temps, juste à la maison, et c'était déjà formidable. Il voit cet apôtre Paul. Il voit cet apôtre qui a une passion pour le Seigneur, une passion incroyable. Il le voit qui est prêt à faire des centaines de kilomètres à pied pour venir dans sa petite ville. qui est prêt à annoncer la vérité au péril de sa vie, qui est lapidé, qui est mort pratiquement ou réellement, et qui se relève et qui repart à l'attaque. Il est très marqué par cet homme qui lui parle de ce Dieu qui est bon avec les Juifs et avec les païens. Ça tombe bien, il est mi-juif, mi-païen. Il est bouleversé par cette première visite de Paul. Paul repart. Retournons à l'arrière de notre Bible, sur la carte. Deuxième voyage décrit dans Actes 15 à 18. En bleu sur ma carte, il parle là de Jérusalem, Sidon, Antioche. Là, il passe par l'intérieur des terres et il repasse à Derbe et à Lystre. Waouh ! Il doit faire la joie de qui vous savez. Et si vous voulez vous tourner dans Actes 16, chapitre 16, verset 1. Paul vient de se disputer avec Barnabas. Barnabas a pris le jeune Marc, en qui Paul n'avait pas trop confiance parce qu'il les avait laissés tomber une première fois. Marc part avec Barnabas, ils s'en vont à Chypre. Paul prend Silas avec lui et il traverse la Syrie, la Cilicie, en affermissant les églises. C'est la fin du chapitre 15. Verset 16, il parvint ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici qu'il y avait là un disciple du nom de Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. C'est la première fois qu'on nous parle du nom de ce jeune homme, mais je suis sûr qu'il était présent lorsque Paul est venu la première fois dans sa petite ville. Et encore une fois, Paul doit se dire, je ne sais pas pourquoi je continue de revenir dans ce bled perdu. Mais il était obéissant et il suivait la direction de Dieu. Peut-être que vous aussi voulez faire des grandes choses pour Dieu. Vous voulez avoir un grand ministère. Vous voulez haranguer les foules, vous voulez être un grand évangéliste, vous voulez être un grand musicien, vous voulez vraiment avoir une influence profonde. Suivez le Seigneur dans les petites choses. Soyez fidèles dans les petites choses qu'il vous le demande. Trouvez de la joie, du plaisir, de la satisfaction à faire le ménage le samedi matin et le dimanche matin aussi. Ne cherchez pas à atteindre subitement un ministère quelque part, très vaguement, qui va « Oh, je vais servir Dieu, enfin !» Non, servir Dieu, ça commence tout de suite, ici. C'est la façon dont on traite les gens, c'est la façon dont on aime les gens, c'est la façon dont on sert pratiquement. Paul, il devait, si ça avait été certains d'entre nous, il aurait dit « Mais tu t'es trompé, là, l'agence de voyage a fait une erreur, j'ai rien allé à faire à Lystre, il n'y a pas la foule là-bas, il y a quelques foules, ils te jettent des pierres dessus. Merci, non merci, je préfère aller à Rome, là il y a du monde, là c'est du lourd là. » Non, non, non. Paul est fidèle. Et grâce à lui, cet improbable disciple va devenir son plus grand disciple. Timothée, on en parlera, va devenir le compagnon de Paul. Il va suivre Paul comme Paul a suivi le Christ. Il voit Paul qui revient. Il est dit que les frères de Lystre et d'Iconium rendaient de lui un bon témoignage. Il n'avait pas compté sur sa relation avec le grand apôtre Paul pour être connu. Il servait. Les gens l'appréciaient. C'était un homme qui aimait Dieu et qui aimait les hommes. Et du coup, Paul voulut l'emmener avec lui. Il le prit donc et le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ce lieu-là, car tous savaient que son père était grec. Autrement dit, il avait la réputation, parmi les Juifs, d'être comme un bâtard. C'était pas un vrai Juif. Il avait un père païen. Il n'avait même pas été circoncis. Paul accepte de le circoncire pour que ça ne soit pas un problème. C'est pas une question de nécessité religieuse, mais c'est pour lui faciliter la vie et pour ne pas s'opposer de façon antagonistique, de façon dure, qui ne produirait pas de fruits, pour que il puisse avoir un ministère parmi les Juifs comme les païens. Il est dit ensuite, on va juste finir, « En passant par les villes, il transmettait les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem afin qu'on les observe. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. » Puis il expliquait comment, empêché par le Saint-Esprit, Paul voulait aller au sud, il voulait aller au nord, il ne pouvait pas, le Saint-Esprit encore une fois, le diriger. Il avait fait ce passage par Lystre, parce que Dieu avait un plan pour Timothée. Timothée, un petit bâtard, rejeté par tout son entourage. Il était sans doute, on le verra plus tard, de cette éducation et peut-être de sa constitution, c'était quelqu'un de timide. C'était un jeune homme qui avait des problèmes avec la pornographie. Vous ne saviez pas ça, mais c'est ce qui est dit dans la Bible. Ce n'était pas quelqu'un d'imposant. On dit que Paul non plus n'était pas imposant. Le prêtre avait dit à sa maman, « On ne peut pas circoncire votre enfant, c'est un bâtard. » C'était quelqu'un qui vivait la vie à l'extérieur. Il n'était pas accepté. Mais il a entendu Paul qui disait qu'en Jésus, il n'y avait pas de juifs ni de païens, pas de femmes ni d'hommes. Et ça lui avait plu. Il n'avait rien fait, ce n'était pas de sa faute, il était né comme ça, mais il était rejeté. Et là, il voit Paul qui ressuscite d'entre les lapidés, qui revient et qui lui demande de venir. Et on va voir qu'en fait, Paul, ça va être, comme je l'ai déjà dit, Paul qui cherchait des disciples, là, il a trouvé la perle des perles. A priori, ce n'était pas quelqu'un sur qui on aurait parié un peso, un euro, une livre sterling, rien du tout. Il était un rien du tout. Il était né dans un mariage illicite. Il va devenir le pasteur de l'église d'Éphèse. Il va devenir un des grands rabbins. Il n'a pas choisi son rabbin, c'est son rabbin qui l'a choisi. Paul l'a remarqué, Paul l'a choisi. Au début de son ministère, Paul semble pressé d'implanter des églises. À la fin de son ministère, il est plus pressé d'investir dans les disciples, un peu à la façon de Jésus-Christ. Ce qui est remarquable aussi, un auteur chrétien le soulignait, de remarquer la distance qu'il a parcourue pour aller chercher un petit jeune. On a tendance à négliger les petits jeunes. C'est qu'un petit jeune encore. Il allait, sous l'influence de Paul, devenir un des plus grands pasteurs de l'histoire. Encore une fois, ce n'était pas quelqu'un qui avait du charisme au sens du monde. Quelqu'un comme Arnold Schwarzenegger, des muscles, le look, la coupe de cheveux. Non, il était timide. Il avait même des problèmes de santé. Paul lui dira plus tard, bois du vin. Oh, il n'a pas dit ça quand même. C'est pas chrétien de boire du vin. C'était des vertus médicinales et rappelons-nous que Jésus, son premier miracle, c'était de transformer de l'eau en sirop d'orgeat. Non, c'était pas du sirop d'orgeat, c'était du vin, je crois, oui. Sans se saouler, bien sûr. Nous, on est comme ce Timothée. Dieu a fait un long chemin pour venir jusqu'à nous. Nous qui sommes des bâtards, qui valons rien du tout en nous, qui sommes des pécheurs par nature, fils de pécheurs, qui nous donnent naissance à des pécheurs. Jésus est venu pour nous. Le bâtard, ils ont le visage fermé, ils ont le regard morne. Ils s'attendent à prendre des coups de partout. Peut-être c'est vous. Vous sentez comme ça, sachez qu'il y a de l'espoir. Timothée, Paul va lui dédier 2 lettres. Il va avoir un témoignage formidable pour lui. C'est dans Philippiens. Chapitre 2, verset 19. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même par les nouvelles que j'aurai de vous. Car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour se soucier sincèrement de votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux du Christ Jésus. Vous savez qu'il a fait ses preuves et que, comme un enfant auprès de son père, il s'est consacré avec moi au service de l'Évangile. J'espère donc vous l'envoyer dès que je verrai clair dans ma situation, et j'ai cette confiance dans le Seigneur que je viendrai bientôt moi-même. Et puis il parle d'un autre homme qu'il leur envoie, Épaphrodite. Ça, c'était la recommandation sur le CV de Timothée. Lui qui était un petit bâtard que le Saint-Esprit avait mis sur le chemin de Paul. Ça, c'est pour vous donner un peu une idée de l'arrière-plan, comment ce jeune homme est venu à Dieu. Et on va aborder maintenant juste les premiers versets de la lettre. Si vous voulez vous tourner, donc page 236 dans la Bible à la colombe. Premier épître de Paul à Timothée, chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre du Christ Jésus, par ordre de Dieu notre Seigneur, notre Sauveur, et du Christ Jésus notre espérance, à Timothée, mon enfant légitime en la foi, grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Amen. On pense que, à la fin du livre des Actes, on laisse Paul dans une maison d'arrestation. Il est libre de parler, de recevoir du monde. Et vers la toute dernière verset, Paul demeura 2 ans entiers au domicile qu'il avait loué. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute assurance et sans empêchement. Là, on pense qu'en fait, après cet emprisonnement, il a été libéré. C'est à la fois la tradition qui nous l'indique et aussi la logique, la correspondance que l'on trouve dans le Nouveau Testament de Paul porte à penser qu'il avait été libéré et qu'il était revenu voir les églises qu'il avait implantées, qu'il avait visité la ville d'Éphèse et qu'il y avait laissé Timothée pour y travailler. Et dans cette lettre, il va essayer d'encourager Timothée à rester là où Dieu l'a placé par l'entremise de Paul. Mais Paul rappelle, c'est une lettre, donc on signe à la fin, là Paul signe au début. Paul, c'était le nom de cet homme qui s'appelait d'abord Saül quand il était un pharisien qui persécutait l'Église. Et puis lorsqu'il s'est converti, ça c'est le livre des Actes, il est tombé de son cheval, que le Seigneur l'a ébloui par une lumière, il a entendu la parole de Dieu, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Alors qu'en fait il persécutait l'Église, il n'avait pas fait le rapprochement, il ne savait pas que l'Église c'était Jésus-Christ, c'était Dieu, et il choisit à ce moment-là le nom de Paul au lieu de Saül. Paul, ça veut dire petit, il se sentait tout petit devant la grâce de Dieu, devant Dieu lui-même. Il était apôtre, ça veut dire envoyé par et pour, avec la mission de représenter Christ Jésus. Il avait d'autant plus d'autorité que c'était l'ordre de Dieu, c'était comme un ordre royal. De Dieu notre Sauveur. C'est intéressant, il parle ici de Dieu, Dieu le Père, comme étant le Sauveur, il parle de Christ Jésus qui est notre espérance. Nous pouvons supporter toutes ces choses, nous pouvons endurer la vie telle qu'elle est ici-bas parce que nous avons une espérance. Cette espérance qui est rentrée dans le cœur de Timothée lorsqu'il a vu ce que Paul pouvait faire, lorsqu'il a entendu les paroles de Paul. Nous aussi, nous pouvons avoir cet espoir. Quelle que soit notre condition, quelle que soit notre situation, notre misère, nos problèmes, notre désespoir à vue humaine, parce que Dieu nous aime, parce que Jésus-Christ va revenir, il est notre bienheureuse espérance. Dans d'autres passages, Paul parle de Jésus-Christ comme étant le Sauveur. Et donc dans l'idée de Paul, encore une fois, il n'y avait aucune différence entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit quant à savoir qu'il y avait un seul Dieu en trois personnes. Le Sauveur, c'est aussi bien Dieu le Père qui a envoyé son Fils, que Dieu le Fils qui est mort pour nos péchés, que le Saint-Esprit qui est celui qui nous convainc de justice, de jugement et de péché. Il l'appelle mon enfant légitime en la foi, parce que il a été celui qui l'a conduit au Seigneur. Paul a parlé et Timothée a écouté et il a répondu de tout son cœur. Il utilise la salutation traditionnelle de grâce et de paix, la grâce, cette faveur non méritée que Dieu nous fait de nous aimer, de nous bénir, alors que nous sommes des pécheurs qui devrions être punis. Traditionnellement, on parle de la grâce, charis, c'est un mot qui vient du mot joie. La grâce, ça doit nous remplir de joie. Le fait que Dieu nous aime alors qu'on ne le mérite pas, waouh! Ça, c'est joyeux. Et l'autre partie de la salutation, c'était la paix, shalom. C'était traditionnellement la salutation juive. Les Grecs avaient plus l'habitude de dire charis, les Juifs shalom. Paul dit toujours, lorsqu'il s'adresse aux gens, lorsqu'il les salue, grâce et paix, charis et shalom. Quelqu'un a fait remarquer que ça c'est une lettre à un pasteur, donc il ajoute un autre mot, la miséricorde. Les pasteurs ont besoin de davantage que de la grâce et de la paix, ils ont besoin de miséricorde. Vous connaissez la différence entre la justice, la miséricorde et la grâce? Si vous ne le savez pas, je le rappelle. La justice, c'est obtenir ce qu'on mérite. Je fais une bêtise, je suis puni. La miséricorde, c'est ne pas obtenir ce que je mérite. Je fais une bêtise et on ne me donne pas la gifle ou on ne me donne pas la punition. Et la grâce, ça va au-delà, c'est non seulement je reçois ce que je ne mérite pas. Je fais une bêtise, on me donne un beau cadeau. Waouh ! Je vais continuer à faire des bêtises. Non ! La miséricorde, ne pas recevoir la punition pour les bêtises que l'on fait. Dieu merci. Nous faisons, en tant que responsables, que ce soit comme pasteur, comme responsable dans votre famille, auprès de vos enfants, l'éducation de vos enfants, comment les mener dans les voies du Seigneur, c'est très important. La paix, grâce, miséricorde, de la part de Dieu le Père, c'est pas la paix que donnent les hommes, c'est la paix qui dépasse l'entendement, la paix qui vient de Dieu, Dieu le Père, et du Christ Jésus, notre Seigneur. Voilà, je crois qu'il est bon peut-être de poser, s'arrêter ici. On continuera, on rentrera dans le vif du sujet, mais c'est toujours important de voir comment Paul se présentait. Il avait l'autorité pour dire ce qu'il va dire. Il était apôtre du Christ Jésus. Aujourd'hui, on entend des gens qui se proclament apôtres dans certaines dénominations, l'Église apostolique notamment, comme son nom l'indique. Il y a des apôtres. Alors, dans le sens où un apôtre est quelqu'un qui a une grande influence dans le monde pour établir des églises et pour faire avancer l'Évangile, l'usage est légitime. Mais il n'y a plus d'apôtres au niveau des apôtres dont on parle dans la Bible. Les 12, Paul, en fait, il a remplacé Judas. Il y avait un certain Matthias, mais on pense que peut-être le vrai 12e apôtre, c'était l'apôtre Paul. Les caractéristiques pour être réclamer cette autorité apostolique, dire qu'on était un apôtre, c'était d'abord d'avoir vu Jésus-Christ. Les apôtres, les 12, même Judas, avaient vu Jésus-Christ. Paul, on peut se dire, mais il est arrivé après. Jésus lui a parlé, il lui est apparu sur la route de Damas. Il a pris 3 ans en Arabie. Ne me dis pas où c'est. C'est où, dites ? Je ne sais pas. Exactement, mais il est allé en Arabie, il a reçu l'enseignement direct de la part de Jésus. Ça, c'était la première nécessité, avoir vu Jésus. Deuxième, c'était d'avoir été utilisé pour faire des miracles. Là, on est en train de béatifier Jean-Paul II, je crois. Je ne sais pas si qu'est-ce qu'il a fait comme miracle. Pour être saint, il fallait avoir accompli des miracles. On vient de lire que, il est peut-être ressuscité, mais au moins on voit qu'il faisait des miracles. Et puis, la troisième, c'était d'écrire sous l'inspiration du Saint-Esprit. Tous n'ont pas écrit, mais d'être guidé par le Saint-Esprit, et de toute évidence, Paul pouvait se réclamer de cette autorité d'apôtre du Christ Jésus par ordre de Dieu, notre Sauveur et du Christ Jésus, notre espérance. Voilà, j'espère que cette entrée en matière va vous montrer que ce qui suit, c'est pas seulement pour quelques pasteurs, c'est pour tous les hommes et toutes les femmes qui veulent suivre Jésus de tout leur cœur. Amen. Amen. On va prier. Seigneur, on te remercie pour cet exemple de ce petit bâtard, Seigneur. Timothée, timide, malade. Boutonneux, probablement, de l'acné. On peut noircir le tableau. Et pourtant, par ton amour, Seigneur, tu es venu le chercher par l'apôtre Paul et tu l'as puissamment utilisé, Seigneur. On te demande de nous parler par cette lettre, Seigneur. On te demande de donner à chacun d'entre nous cette espérance, cette assurance que, entre tes mains, nous sommes bien, Seigneur. Nous avons trouvé la seule personne qui nous aime complètement, la seule personne qui a un bon plan pour cette vie, mais pour l'éternité. Aide-nous à nous réjouir, à avoir cette grâce, ce charisme, cette joie, et aussi cette paix intérieure, Seigneur. Merci pour ta miséricorde, merci pour ta grâce. Je te demande de nous accompagner tout le reste de cette semaine. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen.